minutieusement informé, technologiquement outillé, conscientisé aux problématiques de son époque. Philippe-Vincent Foisy. Il expose tous les côtés des affaires publiques. Santé, économie, culture, politique. Peu importe les enjeux, il s'intéresse à tout. Philippe-Vincent Foisy. Cube Radio.
Cube Radio.
Mardi 24 mai, bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien ce matin. Assez doux ce matin, tranquille. C'est ce qui est prévu aujourd'hui au point de vue météo. 19 le maximum. Après une fin de semaine particulière là, pour les gens de la région de Montréal, quand même bien été. Là. Il y a eu un petit peu de pluie, à peine quelques gouttelettes. Par contre, si on regarde à partir du sud de l'Ontario, l'Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, la tempête s'est transformée dans un phénomène météorologique qu'on appelle derecho, qui a vraiment causé énormément de dégâts. Alexandre Morinville-Ouellet, bonjour.
Bon matin.
Je sais pas si t'as de la famille toi, dans ces régions qui ont été touchées, mais c'est sincèrement le bordel. Là.
Dans les Laurentides, je sais que des voisins du chalet de mes parents, entre autres, là, se sont fait là, arracher leur cheminée, littéralement, là, par le vent. Là, un gros morceau de la cheminée qui est parti. Donc, je pense que ça a frappé fort pas mal ailleurs qu'à Montréal.
Ouais, des arbres qui sont tombés sur des maisons, des pannes de courant aussi. On me disait que les stations-service avaient de la misère à fournir parce qu'il y avait plus de courant. Donc, difficile après ça de donner du carburant, des lignes et des lignes d'attente, des files d'attente pour acheter des génératrices dans les Rona et autres quincailleries comme ça, alors qu'il n'y en avait pas énormément. Alors, on salue tous ceux et celles qui sont encore, qui ont de la difficulté, qui sont encore avec ces dégâts-là. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à en demander. Vos voisins sont là. Il y a du monde qui peut vous aider aussi un peu partout. Vous pouvez nous écrire studio@cube.radio aussi pour nous raconter ce qui se passe avec vous. En ce moment, ça serait à peu près 130 à 140 000 clients d'Hydro-Québec là, qui seraient toujours sans courant sur les 550 000 qui ont été touchés au plus fort de cette tempête-là. Selon le site d'Hydro-Québec, le rétablissement continue de progresser. Il y a 600 équipes qui sont sur le terrain, 1200 travailleurs, pardon, qui sont mobilisés. Et ce qu'on dit, c'est que là, ben, on a fait une grande partie et ce qui reste à venir, on va être encore plus long et encore plus compliqué. Les conditions sont difficiles. C'est difficile d'accéder à certains dommages, et dommages qui sont importants sur le réseau aussi. Donc, difficile de donner un délai pour chaque lieu. Mais vous allez l'entendre, là. Des collègues de TVA qui ont recueilli certains témoignages durant la fin de semaine, des témoignages bouleversants de monde qui ont vu cette tempête-là au moment où elle frappait leur demeure.
Les arbres ont tous tombé un après l'autre. Et puis, mon mari était dans la cuisine quand les arbres ont tombé dans la cuisine. Je l'ai tiré.
Le tourbillon était sur le balcon. J'ai eu le temps de rentrer. J'ai une main sur la poignée de porte. Puis quand je suis rentré... Ça s'est effondré.
Ouais, puis vous pouvez voir les photos encore une fois ce matin. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux aussi qui circulent de ces vidéos. Sinon, à une journée de Montréal, on parle des tribunaux. On explique qu'en ce moment, on est en train de vivre une catastrophe. C'est le juge en chef de la Cour supérieure du Québec qui le dit, Jacques Fournier, qui demande au gouvernement québécois d'agir. Il dit manque de greffiers, d'adjoints qui sont cruciaux au bon fonctionnement de la Cour. Eh bien, ça a des conséquences. Tout ça, on l'a vu la semaine dernière avec notamment des criminels qui retournent chez eux sans être jugés. Et ce qu'on apprend, c'est que les greffiers à la Cour supérieure du Québec sont payés 20 000 $ de moins qu'au municipal ou au fédéral. Alors, c'est clair, quand il y a une pénurie de main-d'œuvre, si vous êtes un greffier, c'est beaucoup plus agréable et plus payant, surtout d'aller travailler au municipal ou au fédéral. Sinon, gros dossier sur les chutes dans les CHSLD. On dit sur les près de 1300 décès dans les centres pour personnes âgées depuis 2020, il y en a 80 qui sont dus à des chutes. Là, on a le témoignage notamment d'une femme de 87 ans qui est tombée, qui est restée pendant plusieurs jours seule au sol. Elle est morte le lendemain de son hospitalisation. On parle de, notamment d'ecchymose, mais aussi de déshydratation, sous-nutrition aussi, justement parce qu'elle est restée seule au sol pendant plusieurs jours. Et ce qu'on indique aussi, c'est que plusieurs de ces incidents auraient été évitables. On parle aussi de camps de jour, des parents à la recherche de places. Difficile parce qu'il manque de jeunes, manque de places. Donc, difficile pour les parents qui n'ont pas de place. Est-ce qu'ils vont pouvoir travailler cet été? On dit que ça devrait devenir un service essentiel. C'est pas vrai que les parents peuvent prendre 8-9 semaines de congé pendant l'été. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un casse-tête pour beaucoup de monde. Sinon, point de vue politique, projet de loi 96, le Parti Parti québécois va voter contre. On l'apprend ce matin dans le Journal de Montréal. Paul Saint-Pierre Plamondon, en entrevue, qui dit « Si René Lévesque avait voté pour le Bill 22 à l'époque de Robert Bourassa, il n'y aurait pas eu de loi 101 par la suite. Le Bill 22, comme le projet de loi 96, dit Paul Saint-Pierre Plamondon, frustrait à la fois les anglophones et les nationalistes. Le projet de loi devrait être adopté soit aujourd'hui, soit demain. La CAQ va avoir quand même l'appui de Québec solidaire qui, dans la presse ce matin, dit qu'elle souhaite quand même rendre inopérant la clause de 6 mois pour les nouveaux arrivants. Vous savez, cette clause qui prévoit qu'après 6 mois, les communications devront être faites en français seulement avec ces populations. Sinon, politique internationale, Joe Biden qui met en garde la Chine qui flirte avec les dangers dans le dossier de Taïwan. Il rencontrait ses homologues du groupe qu'on appelle le Quad, là, les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde, afin d'avoir une plus grande influence dans la zone Pacifique. Monsieur Biden dit aussi que le monde fait face à des heures noires avec la guerre en Ukraine, guerre d'ailleurs qui entre dans son 4e mois, l'Ukraine qui va recevoir davantage d'aide de l'Occident. Il y a une 20aine de pays qui se sont engagés à envoyer des armes, notamment le Danemark avec des lance-missiles anti-navires. Au Canada, il y a les premiers réfugiés qui sont arrivés au Manitoba avec un vol nolisé. Puis en Russie, ben après McDonald's, c'est au tour de Starbucks de retirer ses magasins. Et on parle aussi de l'Ukraine lors du Forum économique mondial de Davos qui s'est ouvert au cours des derniers jours. On s'inquiète de cette crise ainsi que des autres qui frappent le monde. L'inflation en ce moment, la crise alimentaire, la crise climatique. Et on craint maintenant une récession qui pourrait empirer la situation. Sinon, Alex, la nouvelle qui a retenu l'attention sur les réseaux sociaux durant la fin de semaine, qui, disons, en fait pas mal jaser, en lien avec l'Ukraine, c'est cette nouvelle que cet homme britannique qui a accueilli une réfugiée ukrainienne et finalement a laissé sa femme et ses enfants pour une nouvelle vie avec elle.
Ouais, les tabloïds britanniques là sont assez friands, règle générale, de ce genre de nouvelles-là. Un homme de 29 ans qui est avec sa conjointe depuis 10 ans, ils ont plusieurs enfants ensemble également, ils reçoivent justement cette réfugiée ukrainienne de 22 ans, s'installe avec eux et en moins de 10 jours, cette relation de 10 ans s'est terminée parce que ils ont commencé à flirter ensemble, on allait au gym ensemble et comme l'homme parle slovaque, dit-on, qui est assez proche de l'ukrainien, parvenait à se parler en se comprenant quand même assez bien, ce qui rendait la femme assez jalouse. Merci de voir son mari parler dans une langue complètement inconnue avec cette nouvelle femme-là. Et finalement, là, après une grosse altercation, ont décidé de sortir du milieu familial les deux ensemble. Et là, malheureusement, cette femme-là qui reçoit toutes sortes de bêtises sur les réseaux sociaux, comme on pourrait s'y attendre, en disant qu'elle va donner mauvaise presse aux réfugiés ukrainiens qui veulent se trouver une nouvelle demeure dans certains pays. Mais bon, disons que c'est une nouvelle assez insolite qui a retenu l'attention.
Bon, sinon, on attend aujourd'hui un rapport sur la sécurité nationale.
Oui, qui est paru ce matin, un rapport du groupe de travail sur la sécurité nationale qui est composé, là, entre autres, de divers experts, des anciens membres expérimentés et en défense et en sécurité nationale, qui ont conclu, entre autres, que le Canada est vraiment mal outillé en ce moment pour se combattre toutes les mesures qui peuvent menacer la sécurité nationale du pays, qui sont de plus en plus nombreuses. On parle entre autres, évidemment, de l'ingérence étrangère, mais également des cyberattaques de tous les États voyous, de la montée de l'extrême droite aux États-Unis également, qui sont des menaces qui sont constantes et croissantes. Il y a une 60aine de recommandations qui ont été émises par ce groupe-là, entre autres, d'avoir une actualisation plus fréquente de nos politiques, de nos mesures de sécurité nationale. Ça fait depuis 2004 que l'exercice n'a pas été fait. Et donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On recommande de le faire maximum aux 5 ans d'intervalle. Et on demande, entre autres aussi, recommandations intéressantes aux agences de sécurité nationale d'augmenter leur présence et leur transparence sur les réseaux sociaux. On veut que les gens du public soit mieux outillé, soit mieux informé des diverses menaces à la sécurité nationale pour mieux comprendre ce qui vise le pays. Mais on dit vraiment pour l'instant, le Canada continue de se cacher derrière les États-Unis lorsqu'on a des problèmes de sécurité nationale, mais ça ne pourra pas durer éternellement.
Et là, le festival Métro Métro, qui est un festival de hip-hop à Montréal, ça a brassé un peu plus qu'on le souhaitait durant la fin de semaine.
Ouais, des gestes dangereux qui ont été déplorés par les autorités, qui ont été commis en fin de semaine par des festivaliers de ce nouveau festival Métro Métro, qui est d'ailleurs tout juste à côté de chez moi toute la fin de semaine.
Chanceux.
Je l'ai entendu. Ouais, chanceux ou moins quand on veut dormir. Mais bon, des vidéos là qui sont devenues virales, où on voit des gens qui grimpent, entre autres, sur le stade olympique, là, sur la structure elle-même pour tenter de sauter.
Faire attention avec la toile.
Ouais, parce que ça se passe, là, pour les gens qui ne le savent pas, sur l'esplanade du stade olympique, donc juste à côté, et en grimpant sur cette grosse structure de béton-là, même si c'est excessivement dangereux, on pouvait parfois contourner des clôtures. Il y a des mouvements mouvement de foule également là, qui ont poussé, renversé des barricades là, pour passer l'autre côté, rentrer dans le festival sans payer. Il y a eu de la bousculade, des gens qui sont tombés. Bref, en tout, il y a 6 personnes qui ont été transférées aux urgences durant la fin de semaine. 5 arrestations de festivaliers par le SPVM. Sinon, ça s'est relativement bien passé. Mais ces gestes-là auraient pu avoir des conséquences beaucoup plus graves.
Bon, sinon, dans la presse, on nous apprend encore une fois que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a un peu monté le public en bateau sur la qualité de l'air. Souvenez-vous, quand on parlait des seuils avec les capteurs de CO2, on disait faut que ça soit en dessous de 1500 particules par million, là, des ppm de CO2. Le ministre nous assurait qu'il se basait sur des rapports d'experts. Ben, on apprend que les experts recommandent plutôt entre 800 et 1000 ppm dans les classes. Quand on regarde ce seuil-là, c'est à peu près le quart des classes qui sont au-dessus de 1000. Sinon, dans la Ligue nationale, hier, il y a une série qui s'est terminée. La bataille de la Floride aura été de courte durée.
De courte durée, c'est le mot, parce que le Lightning de Tampa Bay, en battant les Panthers 2-0 hier, mais ont balayé la série 4-0. On s'attendait vraiment pas à ça, surtout que les Panthers de la Floride, je le rappelle, étaient les champions de la saison régulière. On avait remporté le trophée du président. Et hier, là, c'est une défaite vraiment crève-cœur. En première période, dominait 18-3 au chapitre des tirs. Et pourtant, aucun n'est parvenu à rentrer. Andrei Vasilevski, là, le gardien du Lightning de Tampa Bay, qui a été impérial avec 49 arrêts encore. Et donc, ben, les champions en titre là, de 2 années de suite poursuivent leur parcours, vont affronter les gagnants de la série entre les Hurricanes de la Caroline et les Rangers de New York. C'est 2-1 pour la Caroline. Hier également, un match, l'Avalanche du Colorado qui ont pris les devants 3-1 dans leur série contre les Blues de Saint-Louis. Victoire convaincante de 6-3. Et Edmonton, eux, mènent leur série 2-1 contre les Blues. Ça se poursuit ce soir.
Alex, bonne journée.
Salut.